Amen. Soyez bénis, vous pouvez prendre place quelques instants. Est-ce que, j'ai demandé à mon assistante vidéoprojection d'être avec moi, est-ce que vous reconnaissez ce symbole? On va faire un peu de code de la route ce matin. Qu'est-ce que c'est? Attention! Ah, est-ce que ça veut dire danger? Oui. C'est surtout, hey, fais gaffe! Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on était sur Paris, nos premières années en région parisienne, à côté de chez nous, il y avait un lac. Et vous savez, en fait, on n'a pas idée, mais il y a tout un tas de panneaux. Vous avez trouvé les panneaux conventionnels avec virages, avec animaux. Enfin, vous allez trouver tout un tas. Et j'ai découvert un panneau. C'est le même que celui-là avec des canards. Vous l'avez vu, celui-là? Il existe. Et alors qu'on se baladait, et c'était les premières fois qu'on prenait cette route, je vois le panneau avec des canards dessus, je me suis dit, c'est une blague. Et puis on arrive, et à un moment donné, je pile pas parce que je vois arriver ça. Je vois une famille de canards traverser la route. Ouin, 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 ouin. Et là, toute la circulation est arrêtée, et tout le monde laisse passer les canards. Et vous avez même des oies, et les oies, elles nous regardent tranquillement sur la route. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe, tu te rappelles? Ah ben voilà. Et moi, je me rappelle de ça parce que, quelque part, notre attention, elle doit s'éveiller parce que des fois, on voit des cygnes, on voit des canards, on voit des oies et sur des panneaux. Et quelque part, dans notre tête, il n'y a pas toujours le tilt de se dire, hey, même par moment, on voit ces panneaux sur la route, on voit des cerfs, des... Et je ne sais pas si vous avez déjà pris la route Napoléon, à 1h du matin, j'ai croisé un paquet de biches, en plein milieu de la route. Et je me suis dit souvent, on voit ces panneaux, mais on ne prête pas attention. Alors moi, j'aimerais vous présenter un panneau que j'ai inventé. Il arrive, s'il veut bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Alors, j'entends kangourou européen, Superman. Alors, soyons un peu plus spirituels, on va essayer. Attention, enlèvement imminent. Alors, en effet, à la voix de l'archange, on va décoller. Hein. On est d'accord avec ça? Jésus revient. Et Jésus va revenir chercher son église, on est d'accord. Et il sera dans les nuées, et au son de l'archange, amen. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que face à ce que nous vivons et la période dans laquelle nous sommes, tous les événements qui sont en lien avec Israël sont des panneaux qui doivent éveiller notre attention. Vous êtes d'accord avec ça? Alors souvent, on peut se réfugier derrière le fait de prier pour Israël et de dire « Seigneur, tu bénis !» Et moi, j'aurais tendance à dire, on va prendre Matthieu 24, vous êtes d'accord? C'est les disciples qui disent à Jésus bah, « Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce qu'on saura que tu reviens ?» C'est dit « Dis-nous quand ces choses arriveront, quel sera le signe de ton avènement ?» et de la fin du monde. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Alors Jésus étaye. Et Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais prenez garde que vous ne soyez point troublés. N'en soyez point troublés, car il faut toutes ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. On est d'accord? car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura des famines, des pestes, on en sort d'une. Et des tremblements de terre. Il y en a eu un là, récemment encore. Alors, en effet, vous allez me dire, mais il y a une récurrence à tout ça. Oui, oui, bien sûr. Mais on se rend compte qu'on est dans une période de trouble et en effet, il faut qu'on se rappelle cette réalité, Jésus revient. Et à un moment donné, on peut passer devant les panneaux indicateurs sans jamais s'alerter et se dire, bah oui, il y a des biches qui passent de temps en temps. Mais oui, il y a des canards même qui passent de temps en temps. Ouais, mais tous ces signes, mes frères et sœurs, comprenez, ils ont pour vocation à dire à l'Église, « Hey, attention !» Et ils ont pour but de nourrir le fait de se préparer à l'avènement de Christ. C'est jamais innocent. Alors on poursuit. Il y aura donc des famines, des pestes, des tremblements de terre dans les lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement des douleurs, de douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus parle à qui ? Jésus parle à qui ? Aux croyants ? Il parle sans doute aussi aux juifs. Ça pique un peu, mais c'est une réalité. Nous sommes encore préservés, mes frères et sœurs. Mais combien de pays aujourd'hui persécutent les chrétiens ? Et on sait que ça va de façon grandissante. On le sait. Alors nous, on n'est pas très exposés à ça. Pas encore. Mais c'est une réalité pour beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent tous les ans à cause de leur foi. Et ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que ces choses n'existent pas. On est d'accord avec ça. Et le but que le fait que Jésus laisse ça est simplement pour nous dire, mais et il nous le dit en préambule, il faut que ces choses arrivent et elles vont arriver. Alors on continue. Et c'est là que, dans ma recherche de... Vous savez, des fois, on voit ces panneaux, et moi, je me suis dit, ça serait bien de reprendre ces textes, de les approfondir, de comprendre ce qu'il en est, dans le contexte du retour de Jésus. Lorsque Jésus va revenir, Jésus commence à parler et à avertir l'Église de certaines choses, parce qu'on est d'accord quand il parle de « on vous persécutera, on vous liera, on vous haïra », il parle bien sûr des chrétiens, parce qu'il est en train de s'adresser à ses disciples, mais il est aussi en train de s'adresser au peuple d'Israël. Il s'adresse à tous les enfants et à la postérité d'Abraham dans sa grande globalité, ceux qui font partie de la promesse par sang, mais ceux qui font aussi partie de la promesse spirituelle, nous. Alors au verset 10, et c'est là que moi j'ai un peu tiqué, vous allez comprendre pourquoi. « Et alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un et l'autre et se haïront l'un et l'autre. » Attendez. À qui Jésus s'adresse ? On est d'accord, aux croyants. Et Jésus prévient que dans la fin des temps, avant le retour de Christ, déjà il dit plusieurs. Et si vous prenez les textes en grec, il parle d'un grand nombre, de beaucoup. Et même, on pourrait employer un mot qui est un peu violent, le plus grand nombre. Alors, quand on prend le mot plus grand nombre, à quel pourcentage ça vous fait penser ? Alors, j'entends plus de 50, on est d'accord. Prenez la moitié d'entre nous, là. La moitié. Je vais me mettre là. Je rigole. Peu importe, il n'y a pas de ligne. Le plus grand nombre. Et on se dit, quelque part, il faut être interpellé de ce que Jésus est en train de seront donc scandalisés. Ok ? Et j'ai pris plusieurs versions. Beaucoup vont trébucher, c'est notre version. Et si vous prenez la version anglaise que j'aime beaucoup, il parle d'être offensé. Et là, peut-être, ça devient un peu plus clair sur la notion de trébucher, sur la notion d'être scandalisé. En fait, Jésus parle tout simplement du fait d'être offensé. Je suis allé chercher dans le dictionnaire ce qu'est le mot offensé. Ça vous va ? Être blessé dans sa dignité, dans son honneur, être offensé, se sentir jugé d'une manière blessante ou vexante. Ça vous parle ? Et il dit, il rajoute, attendez, c'est violent. Et ils se trahiront les uns les autres. Oh la vache ! Attendez ! L'Église unie. Merci Seigneur. Et dans l'idée de trahir, on pourrait voir plein d'aspects parce que le mot, c'est en effet livré, mais ça peut être aussi critiqué, ça peut être parler mal de l'autre, invectiver l'autre, ça peut être aussi murmurer contre, ça peut être tout ce qui est négatif en fait que l'on peut apporter à l'autre. Mais quand je dis l'autre, à son frère ou à sa sœur, hein, on est d'accord. Parce que c'est l'un et l'autre. On n'est pas en train de parler du monde, on n'est pas en train de parler de situations qui pourraient prendre place dans le monde, on parle de situations qui prennent place dans l'Église, dans les temps de la fin, où nous offenserons les uns les autres, mais avec des conséquences, au point que quand je me sentirai offensé, je n'aurai pas de problème à agir comme dans le monde. Parce que dans le monde, quand on est offensé, qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui. Or, il nous est quand même dit dans la parole de ne pas nous conformer au siècle présent, on est d'accord. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire dans les temps de la fin ? L'Église va être offensée de ce que les uns et les autres vont se dire, vont se faire scandaliser ou vont trébucher. Et en fait, Jésus est en train de décrire un processus parce que je suis scandalisé, parce que je suis blessé, donc parce que je suis blessé, je viens sur le terrain de la trahison, de la critique, de ce qui... Ouais. Et au final, ce que craint Jésus, parce que le texte finit avec ça, quand reviendrai-je, trouverai-je encore l'amour, non? L'amour. Parce que c'est de ça dont il s'agit, à la fin. Et c'est ce que craint Jésus, c'est que l'Église soit confrontée à ses offenses, qu'elle en fasse un problème au point de venir sur le terrain de ce que vit le monde. Et parce que finalement nous sommes offensés, nous répondons, nous nous trahissons, la conclusion finale c'est qu'on finit par tous se haïr. Ouais ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Hein. Je déclare le message le moins populaire de l'année. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Finalement, l'une des clés de compréhension de ce passage et de cet enchaînement d'événements, offensé, trahison, on finit par se haïr, se détester. La base de ce que l'Église pourrait vivre, ou là où tout commence, c'est sur le point d'être offensé. Avez-vous déjà été offensé ? Blessé par quelqu'un ? Vexé par une personne. Et je vais aller plus loin, parce que par moments, ça se passe dans l'Église. Maintenant, toute offense n'ont pas toujours la même valeur, on est d'accord ? Elles sont liées à l'intensité de l'offense. Et puis, un autre paramètre qui, par moments, nous échappe. Le degré d'attente. Vous connaissez ça ? On n'est pas offensé de la même manière en fonction de qui nous offense. Vous êtes d'accord ? Et c'est souvent lié à nos attentes. Vous avez quelqu'un qui vous déteste, et c'est ce que peut-être David va dire, je crois que j'ai mis le passage. Psaume 55, verset 13. Regardez. Ce n'est pas un ami qui m'insulte. Ça, franchement, je le supporte. Ce n'est pas non plus mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. Mais alors, mon frère, mon ami, ma sœur, mon pasteur, c'est pas la même histoire. Vous comprendrez que finalement, en fonction des attentes que l'on a des uns et des autres, quelqu'un qui est dans la rue, qui nous fait un croche-patte, qui nous insulte, ça vous est déjà arrivé ça? Parce que peut-être à un moment donné, on n'a pas fait attention à quelque chose ou qu'on ne roule pas assez vite, puis il y a quelqu'un derrière, on sent qu'il boue. Et... on sent bien qu'il n'est pas en train de dire des choses gentilles, hein, on est clair. Hein. Mais vous avouerez qu'une fois le chemin passé, on passe à autre chose. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle le niveau zéro d'attente. Mais alors après, dans l'église, il y a déjà un niveau. Ben après, il y a le pasteur, un autre niveau. Après, il y a nos amis proches. Là, ça commence à faire mal. Allez, on va dire l'époux, l'épouse. Ça grince. Avez-vous remarqué que nous sommes blessés et la façon dont nous sommes blessés et l'intensité de la blessure dépend bien souvent de nos attentes vis-à-vis des personnes qui viennent à nous offenser. Et en fonction du niveau que ces personnes et la place que ces personnes ont, l'offense vient nous chercher loin, très loin, très, très, très loin. Si je dis cela, c'est parce que l'offense dans le cœur du chrétien n'est pas innocente. Proverbe 18, verset 19, regardez ça. C'est une pépite. Un frère, j'ai rajouté sœur. J'ai pensé à vous. Des fois, on ne pense pas à vous, mes sœurs. Un frère ou une sœur offensée est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils aux verrous d'un château. Quand nous laissons l'offense remplir notre cœur, devinez, on se barricade, on monte des murs. Et le livre du Proverbe, j'ai mis une photo d'un chrétien offensé. Un chrétien offensé va établir des forteresses comme toute personne qui peut être offensée. Et une forteresse, parce que le Proverbe emploie ce mot à bon escient, parce que forteresse, c'est un mot qui fait appel et qui nous renvoie à la guerre, hein, on est d'accord, hein, nous renvoie à des éléments qui sont guerriers, qui sont de l'ordre de l'offensive, de la défense sans doute. Mais une forteresse est émunie de plusieurs éléments. Les mots qui sont employés pour décrire une forteresse, c'est assez étonnant. Une forteresse a des fenêtres. Vous savez comment ils appellent ? Les meurtrières, ma femme dit. Passionnant, n'est-ce pas ? Une forteresse est construite de façon inaccessible en général sur les hauteurs. Elle est munie de meurtrières pour pouvoir répondre à l'adversité, pour répondre aux attaques. Elle tire des flèches. Elle est solide, elle est inébranlable, mais elle est surtout fermée. Et c'est ce que dit Proverbe. C'est comme un verrou d'un château. Et ce n'est pas l'une des seules difficultés à comprendre le fait que nous sommes offensés et la situation dans laquelle l'offense nous plonge. Certes, elle bâtit autour de nous une muraille dans nos rapports, dans nos échanges. Quand on a été blessé, meurtri, que c'est difficile de faire confiance à nouveau, que c'est difficile de venir simplement dans un rapport, dans un échange, de se laisser toucher, de se laisser interpeller. La défensive est là, la posture est là. Et deux problèmes émergent face au fait d'avoir été offensé. Premier élément, c'est que j'ai raison d'être offensé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que par moments, on peut justifier le fait d'avoir été offensé. Et de justifier une posture. Et de dire, mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit ? Tu te rends compte ce qu'il a fait ? Ah non, mais il ne peut pas en être autrement. Je bâtis ma forteresse maintenant. Je ne lui parle plus, je ne discute plus avec lui, je ne le vois plus, je ne lui dis plus bonjour. De toute façon, c'est vite. En fait, la forteresse se dresse, se bâtit, et on a tout un tas de raisons de dire et de justifier pourquoi elle est là. Et même à la limite, tu pourrais me dire, Pierre, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que cette personne a dit. Pierre, tu peux pas venir sur ce terrain-là. Prédication la moins populaire de l'année, je vous le dis. Et finalement, dans le fait de bâtir cette forteresse, vous trouverez tout un tas de bonnes raisons de le faire, mais aucune de l'enlever. Et l'autre difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est de nier le fait qu'on est offensé aussi. Ah non, 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 tout va bien. Tout va très bien. Tu saignes. Non, non, c'est rien. Pas de problème. T'as un peu mal. Non, non. Sauf que la réalité, c'est que quand on bâtit une forteresse, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le reconnaissiez ou non, ça se voit comme un nez en plein milieu d'une figure. Tu es blessé, tu es offensé. Et peut-être le nier va t'amener à passer à côté de réalités spirituelles. Alors je pourrais reposer la question, es-tu offensé ? Est-ce que j'ai le droit d'être offensé ? Ouh là là. C'est facile pour toi, Pierre, de dire ça. Hein. Est-ce que j'ai le droit d'être offensé ? Oui. Si tu ne suis pas Jésus. Mais j'ai envie de croire qu'on a tous fait le choix de suivre Jésus, ou en tout cas une grande partie. Et dans ce cas-là, ça pose un souci, en fait. Parce que suivre Jésus nous amène sur le terrain de « qu'est-ce que je fais de mon offense, en fait ?» Et c'est compliqué, là, parce que alors oui, peut-être ça paraît facile pour moi de dire ça, mais je pense qu'on est tous offensés, mes frères et sœurs. Non ? Il n'y a que moi qui suis offensé toutes les semaines ? D'une façon ou d'une autre, je suis d'accord, à des niveaux différents. Il y a des fois, l'offense vient me chercher, il y a des fois où bah écoutez, c'est un croisement de route, et puis ça passe à autre chose, hein, pas de problème. D'ailleurs, Jésus va le dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai prêché là-dessus, où Jésus dit, il est impossible que vous ne soyez pas offensés. Impossible. Et on sera tous offensés, d'une façon ou d'une autre. Par moment, par l'extérieur, par ceux qui nous environnent, par nos proches, par nos enfants. Des fois par nos parents, c'est compliqué, par nos familles, par nos frères, par nos sœurs, par l'Église, par des situations qui nous exaspèrent, des situations ou des façons de percevoir les choses. Je pourrais aussi rajouter l'idée que par moments, l'offense, elle peut se nourrir de notre impression des choses, parce que derrière une parole et en fonction de la posture que nous avons, c'est fou quand même que le filtre par lequel nous recevons les choses est important. Non ? Connaissez les filtres ? Parce que par moment, lorsqu'on perçoit une information, soit tu peux la percevoir rouge, soit tu peux la percevoir verte. Ça, c'est l'histoire de la forteresse qu'on bâtit autour de soi. La forteresse que tu bâtis autour de soi va servir de filtre, va t'amener à penser que toute personne qui vient à ta rencontre peut en vouloir à ta vie. Non, non, je prends juste des nouvelles. Je veux juste savoir si tu vas bien. Eh, c'est pas toujours perçu comme ça. Parce que quand on a décidé de bâtir une forteresse, on a décidé aussi de faire le choix d'être sur les défensives sur tout ce qui arrive à nous. Aussi, par moment, ce qui est déjà par moment une parole simple, par moment, bah, je te taquine un petit peu. Il m'a mal parlé. Et je suis super offensé. Mais je ne veux pas me l'avouer à moi-même. C'est super dur. Oui, mais parce que on est dur. Hein. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fonction de ce qu'on a vécu et de l'offense que nous avons reçue, nous pouvons combattre des années, non pas avec ceux qui viennent à notre rencontre, mais avec notre forteresse. On a chanté ce matin « Briser les chaînes ». On voit les chaînes bien souvent chez nous, mais elles sont extérieures à nous, mais les chaînes intérieures qui nourrissent notre perception des choses, notre compréhension des problématiques, des attitudes et des comportements. Est-ce que nous répondons toujours sans le filtre que la forteresse met entre nous et notre interlocuteur? Je pose cette question parce que des fois, il faut examiner nos réactions intérieures. Est-ce qu'on n'a pas été blessé d'une attitude et d'un comportement? Est-ce qu'on ne s'est pas senti heurté? Est-ce qu'on ne s'est pas senti lésé? Est-ce qu'on n'a pas eu l'impression qu'on nous a menti? Est-ce qu'on n'a pas eu l'impression que... Et notez que toutes ces offenses qui sont par moments insignifiantes finissent par se frayer un chemin dans nos cœurs et nous amènent sur le terrain de la défensive. Est-ce qu'on a toujours la bonne perception des choses? Ou est-ce que sans s'en rendre compte, la forteresse s'est bâtie au point d'arrêter toute chose, toute possibilité d'être un verrou fermé? Alors, est-ce que j'ai le droit d'être offensé? Matthieu chapitre 5, verset 21 va dire une chose. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Et là, à ce moment-là, on se dit, oui, bah oui, attends. C'est normal. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Ah ouais. Jésus a mis le niveau ailleurs. Et souvent, dans notre esprit, on est resté dans une vision ancien testamentaire. Ça nous arrange, à vrai dire. Je ne sais pas vous. Je vais être très clair avec vous et je vais ouvrir mon cœur parce que je pense que c'est important qu'on comprenne que on pourrait penser que ça s'adresse à la personne qui est à côté de nous, mais pas à soi. Mais moi, cette semaine, j'ai lutté avec ça. Ah, j'ai pas eu envie de meurtre. Mais je vous dis, quiconque se met en colère contre un frère mérite d'être puni par les juges. Ça, c'est moi. Celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. La vache. Alors, peut-être on va contextualiser, on se dit, ça, c'est à l'époque de Jésus, mais regardez, c'est ce que Jésus dit. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. En fait, Jésus est en train de recadrer et de dire les choses. Tu tues quelqu'un, c'est pas bien. Mais quand tu parles mal de lui, c'est la même chose. Parce que là, on commence à voir les mécanismes se mettre en place. Je vais vous dire, je les ai vus se mettre en place dans mon cœur cette semaine. Je me suis dit, oh punaise, où tu t'en vas? Et alors du coup, je lis le texte de Matthieu chapitre 24 qui dit, bah, dans les derniers temps, vous savez quoi? Vous serez offensés. Ah ouais, c'est vrai. Mais fais gaffe, parce que l'offense va t'amener à trahir. Va t'amener à médire, va t'amener à dire, à critiquer, à insulter. Punaise, je suis passé pas loin quand même hein, cette semaine. Et vous savez quelle est l'étape suivante? Je vais te haïr maintenant. Vous les voyez les mécanismes se mettre en place? Tu m'offenses, je te critique, et quand je t'ai critiqué, je te déteste. Et Jésus pose la question à la fin de ce chapitre étonnant. Matthieu 24, trouverai-je encore l'amour quand je reviendrai? Oh, bam! Et là, je me suis dit, Seigneur, punaise. Trouverai-je encore l'amour? Le défi d'été, hein, des derniers temps, mes frères et sœurs, je vais vous l'annoncer d'entrée de jeu. Ça sera encore d'être en capacité de s'aimer. Au point de ne plus laisser l'offense nous détruire. Oui. Matthieu 24. À la fin des temps, avant que je revienne, l'Église s'offensera. Et de cette offense va naître des trahisons, des paroles prononcées, des livraisons aux juges, parce que c'est ça le terme précis. Et une fois qu'on se sera bien livrés les uns les autres, on se détestera. Et Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore l'amour? Alors souvent, on met l'accent sur l'amour vis-à-vis de Dieu, mais réfléchissons un peu plus à ça. Si l'amour de Dieu se limite à notre amour que l'on a pour Jésus, qu'en est-il de nous? Je dis ça parce que c'est un Jean qui en parle. Chapitre 2, verset 10. Et là, ça doit être un signal pour l'équipe de monter. Celui qui aime son prochain, je vous rattrape au vol. Celui qui aime son frère et sa sœur demeure dans la lumière. Et notez bien, tout est corrélé. Aucune occasion de chute n'est en lui. On pourrait réemployer le mot qui est dit aucune occasion d'être offensé, parce que c'est les mêmes mots, est en lui. C'est ça l'enjeu, mes frères et sœurs. S'aimer suffisamment pour ne pas laisser l'offense devenir une occasion de chute dans mon cœur. Et de maîtriser, de continuer à aimer. Et de dire, il m'a offensé pour X raisons. Et je vous dirai, mes frères et sœurs, si vous restez sur l'offense, mais ça ne s'arrêtera jamais. Jésus le dit. Si vous cherchez une église qui ne va pas vous offenser, vous n'en trouverez pas. Ça n'existe pas. Jésus le dit. Il est impossible que vous ne soyez pas offensé. Impossible. Alors par moments, on peut entendre, « Oh oui, des discours, oh, oh, on m'a fait plus mal dans l'église que dans le monde. » Oui, possible. Mais c'est tellement lié à nos attentes, cette histoire. Le regard est déjà faussé, en fait. Alors oui, en effet, tu pourrais trouver des comportements dans l'église qui pourraient te blesser. Oui, l'offense. Mais si tu laisses l'offense te conduire sur le terrain de « je te trahis, je parle de toi dans ton dos, je te fais mal », pour qu'au final, l'un et l'autre, on puisse plus parler et on finisse par se détester, Jésus pose la question « trouverai-je encore l'amour quand je reviendrai ?» Alors il finit et il dit au verset 11 « Et c'est Jean, celui qui aime Jésus de tout son cœur, celui qui est le plus proche, mais celui qui est son frère ou sa sœur, est dans les... » Alors, soyons très clairs, celui qui est dans les ténèbres, il y a des questionnements à avoir quant à son salut. Je pose la question parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas juste lire ces textes et se dire « Ah non, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre », sans à un moment donné s'interroger, parce que la vérité, c'est que si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, si tu es ton frère, si tu es ta sœur, tu es dans les ténèbres. Et là, c'est une importance vitale, je veux dire même vitale par rapport à ton éternité. Il poursuit, il lit, et il marche donc dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La vérité, c'est que quand on laisse l'offense nous atteindre, quand on choisit de laisser l'offense cheminer dans notre cœur, elle va nous pousser à critiquer, elle va nous pousser à trahir notre frère, elle va nous pousser à trahir notre sœur, elle va nous pousser à médire, elle va nous pousser à prononcer des choses, elle va nous pousser à haïr. Et je vais vous dire, au fur et à mesure que ce mécanisme se met en place, le mécanisme qui prend place dans la fin des temps dans l'Église, ce que Jésus craint, c'est qu'au fur et à mesure, l'œuvre du diable fait son cheminement. C'est comme la morsure du diable dans ta vie. Elle s'infecte. Elle s'infecte. Et au fur et à mesure dans notre cœur, j'ai bataillé cette semaine à connecter avec Dieu, à dire « Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Parle-moi, Seigneur. » Jusqu'à ce que Dieu pointe dans mon cœur et dans ma vie, me dise « Mais Pierre, depuis quand tu laisses Depuis quand tu laisses l'offense toucher ton cœur? Depuis quand tu laisses l'offense te pousser à critiquer? Depuis quand tu laisses l'offense te conduire à haïr ton frère, à haïr ta sœur? Au plus tu laisses l'offense grandir en toi, au plus elle t'éloignera de Dieu. Et parce que tu es dans les ténèbres, tu ne vois plus rien. Et même, je vais te dire, tu n'entends plus rien. Et là, il y a un constat terrible. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans la goutte vitale que le Saint-Esprit vient alimenter dans notre cœur, mes frères et sœurs, on n'est rien. On n'est rien. Et on devient une proie facile pour celui qui rôde. Une proie facile pour celui qui cherche à nous détruire. Sans l'impulsion de l'Esprit de Dieu qui marche à nos côtés, on n'est plus rien. Et Jean nous met en garde et nous dit, si tu es ton frère, si tu es ta sœur, alors tu es dans les ténèbres et les ténèbres aveuglent tes yeux. Alors c'est pour ça que Matthieu poursuit. Matthieu chapitre 5 poursuit à la suite du verset 22. Il dit verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être il t'a offensé pour une bonne raison, alors laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur, puis reviens prendre ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » On vit des temps particuliers, mes frères et sœurs. Moi, je suis convaincu que le Seigneur revient. Et il n'est pas question de passer outre des fondamentaux dans notre marche avec lui, sous prétexte que peut-être on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans de conversion, et on s'estime être mis hors de cause par certaines problématiques, certaines choses qui viennent nous chercher, surtout quand Jésus dit qu'à la fin des temps, avant mon retour, le plus grand nombre sera attaqué par l'offense. Et parce qu'ils seront attaqués par l'offense, ils se diviseront, ils se feront mal mutuellement, ils se blesseront au point de se haïr. Il y a des versets et des éléments qui prennent un autre relief dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Et ce matin, je suis juste là aussi pour dire que Dieu nous aime suffisamment pour nous alerter sur notre condition. Et pas nous dire que tout va bien parce que ce que Jésus veut, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. On est d'accord avec ça? Aussi, on va prendre la Sainte-Cène là dans quelques instants. Je voudrais qu'on puisse se lever, on va se saisir des éléments. Ce matin, je n'ai pas pu tout aborder. Et dans deux dimanches, j'apporterai la suite. Parce qu'en effet, l'offense, ce n'est pas quelque chose qu'on règle parce qu'on le décide. Il y a une partie de décision, certes. Mais l'offense nécessite qu'on en parle dans notre façon d'en sortir. Et ce matin, je voudrais mettre un pas à l'étrier, un pied à l'étrier dans cette démarche que nous pourrions avoir de dire, Seigneur, je ne veux pas laisser l'offense anéantir ma foi, mes convictions, ma volonté de te suivre, Jésus. L'offense est une puissance. L'offense est une puissance. Une morsure du diable Puis ce matin, je veux croire que déjà au travers de ces symboles, en prenant le pain et le vin, on vient de le lire ensemble. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, ce matin, tu peux déjà décider de dire « je vais régler ça ». Tu peux déjà décider de dire « j'ai médit, j'ai mal parlé, j'ai été offensé ». Et de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai laissé l'offense me barricader, j'ai laissé l'offense me mettre au sommet d'une montagne et barricader ma vie, barricader, m'entourer d'une muraille tellement haute avec des meurtrières pour pouvoir répondre et blesser celui qui m'offense. » Et finalement, oui, l'offense est passée. Oui, t'as trahi ton frère, t'as trahi ta sœur. Tu l'as trahi dans ses attentes, dans le fait qu'à un moment donné, on est censé s'aimer, mais on a vu toute une autre face, toute une autre partie de ça. Et derrière, dans ton cœur, tu as médité, dans ton cœur peut-être, tu t'es moqué, dans ton cœur, tu as prononcé des paroles de mort. Et Jésus nous rappelle que il n'est pas mieux celui qui parle mal de son frère ou de sa sœur qu'un meurtrier. Oui. Alors la haine s'est emparée de ton cœur et t'a déconnecté de la présence de Dieu. Oh, que c'est dur. Le désert est long. Et par moments, notre foi, notre espérance, notre vie en Jésus tient qu'à un fil de l'esprit qui décide de pas supprimer le lumignon qui fume. Non, non. Mais le Saint-Esprit a la capacité ce matin de souffler sur les braises de ton âme. À la capacité de raviver la flamme dans ton cœur. Et ce qui semble peut-être mort en toi, cette connexion avec Dieu qui semble être mort en toi peut reprendre source, reprendre vie par une décision de dire « Seigneur, guéris-moi de l'offense. Guéris-moi de l'offense et de sa puissance en moi. Délivre-moi cet esprit. » Et de dire « Seigneur, pardon parce que j'ai laissé l'offense dominer ma vie, dominer mes réactions, construire une forteresse, tirer des flèches, trahir mon frère, trahir ma sœur, au point de finir par en le détester, la détester. Seigneur, brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes au nom de Jésus. Que les murailles tombent, que les forteresses tombent, et qu'elle laisse place à l'amour véritable, celui que Dieu veut mettre chacun de nos cœurs. Je brise au nom de Jésus la puissance de l'offense au milieu de nous. Je brise au nom de Jésus la puissance de l'offense au nom de Jésus. Et que le nom de Jésus sorte victorieux. Que l'amour de Jésus sorte victorieux de ce lieu. Au nom de Jésus. Alors que nous prenons le pain et le vin, je voudrais inviter chacun et chacune à s'examiner et à dire « Seigneur, je veux sortir de ma forteresse. Je veux sortir de ma forteresse, Adam. Et au nom de Jésus, je te demande pardon d'avoir laissé l'offense briser ma vie spirituelle, briser ma relation avec toi.